La justice à l'œil, le droit saisi par le cinéma. Un podcast présenté par Magali Flores-Lanjou.
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes toujours avec Jean-Loup Bourget. Bonjour Jean-Loup Bourget.
Bonjour.
C'est spécialiste du cinéma états-unien, du cinéma classique hollywoodien, et nous poursuivons notre découverte de quelques procès dans quatre films de Douglas Sirk. Nous en avons déjà évoqué deux, il nous reste à évoquer le troisième film qui s'avère être le deuxième que Douglas Sirk a réalisé aux États-Unis, donc en français L'aveu, Summer Storm, à partir d'une nouvelle de Tchekhov, Partie de chasse. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu pour situer le drame ou les drames qui vont se nouer dans ce film?
Alors, ce film, donc, dont le titre français « L'aveu » et le titre anglais « Summer Storm ne sont pas les titres originaux du roman de Tchekhov. Parce que là, c'est le seul roman qu'a écrit Tchekhov. Et c'est vrai que souvent, à cause d'une je ne sais quelle confusion, dans les filmographies de Sirk, on dit que c'est d'après une nouvelle de Tchekhov qui est le duel. Il y a bien une nouvelle de Tchekhov qui s'appelle le duel, mais ça n'a rien à voir. C'est effectivement donc un roman qui n'est pas de dimension gigantesque, mais tout de
même.
Alors
c'est peut-être ça qui induit le public français en erreur. On dit peut-être « short novel ». Et qu'on traduit nous par nouvelle, alors qu'en anglais, c'est un court roman.
Oui, moi je ne sais pas, mais dans le livre de Halliday, par exemple, sur Sirk, même dans l'édition française, qui est l'édition plus complète et en principe corrigée, il est question d'une nouvelle qui s'appelle Le Duel, mais vraiment, ça n'a rien à voir. C'est, comme vous l'avez dit, c'est drame de chasse ou un accident de chasse. Et donc, c'est un roman très curieux. C'est le seul roman qu'a écrit Tchekhov. Mais c'est un roman très curieux avec un procédé narratif qui est plus ou moins repris par Sirk, qui s'agit d'une sorte de confession. Confession à la fois dans le sens littéraire et dans le sens juridique. C'est-à-dire que on comprend peu à peu, mais ça n'est pas immédiatement évident. On comprend qu'il s'agit du manuscrit qu'écrit un juge d'instruction, qui est juge d'instruction provincial, qui est dans ce qui s'appelle, enfin si, ça s'appelle déjà l'Ukraine, mais dans ce qui est l'Ukraine, évidemment, faisant partie de l'Empire russe, puisque l'action, alors dans le roman de Tchekhov, c'est très clair, puisque c'est vers la fin du 19e, mais dans le film, alors l'action relatée se situe donc vers 1912, donc un peu avant la Grande Guerre et la Révolution russe, mais la conclusion, il y a un procédé un petit peu d'enchâssement, c'est-à-dire que il y a l'ouverture et la conclusion du film qui sont peu après la Révolution, quand la Révolution a triomphé. Et ça, donc, ça modifie évidemment la perspective, puisque ça accentue un contraste, enfin, ça induit un contraste qui n'est pas chez Tchekhov entre l'ancien monde, l'empire des tsars, et puis le nouveau monde bolchevique, qui en tout cas apparemment se distingue radicalement de l'ancien monde. Mais les personnages appartiennent évidemment à l'ancien monde. Ils sont un peu d'ailleurs un peu des Katis, à supposer qu'ils aient été très glorieux avant, ce qui n'est pas forcément évident. Mais donc, ce récit est censé être celui d'un juge d'instruction, donc en Ukraine, et il s'avère petit à petit qu'on comprend que lui qui est chargé de l'enquête sur l'assassinat, le meurtre, c'est pas forcément prémédité, ça c'est s'est laissé un peu dans le flou, d'une jeune femme, jeune femme d'extraction sociale tout à fait humble, mais une très belle jeune femme qui manifestement plaît beaucoup à tous les hommes et qui est heureuse de leur plaire. Il y a des nuances aussi hein, entre le roman et le film. Enfin, alors dans le film, on peut dire... c'est assez différent d'ailleurs parce que dans le roman, c'est une très jolie blonde, mais dans le film, c'est une actrice très brune, Linda Darnell, qui était une... Je suis désolé de tomber dans les stéréotypes, mais enfin, une des actrices des années 40 à l'érotisme assez explicite, dirons-nous, plutôt un peu racoleur. Enfin, et donc... ça correspond très bien au rôle de cette jeune femme qui, comme je disais, plaît aux hommes. Ça lui fait plaisir aussi de leur plaire. Puis elle y voit manifestement un moyen d'ascension sociale dans une société extrêmement hiérarchisée. On est dans l'Empire russe, dans une province un peu éloigné des centres du pouvoir, mais qui reconstitue une société, alors avec un comte...
Le comte Volsky.
Le comte Volsky, qui est joué, d'ailleurs, c'est un contre-emploi remarquable, joué par Edward Everett Horton, qui était un acteur de comédie, habituellement, et Sirk a eu l'idée, le culot de lui donner ce rôle qui est à la limite du comique, de la caricature, mais qui montre bien une espèce de personnage plutôt sympathique, plutôt amusant, mais complètement irresponsable, fin de race, courant après tous les jupons qui passent à sa portée, prenant plaisir à boire, à inviter ses amis à des banquets, à des fêtes, etc. Mais encore une fois, bon, n'ayant aucune véritable conscience de ses responsabilités en tant que noble relativement, non pas désargenté, mais enfin quand même, il a le gros problème d'argent parce que il est très dépensier comme on l'avait dit de Finsbury dans l'aristocratie anglaise un petit peu avant. Il a aussi des goûts de luxe et puis comme il aime beaucoup, il n'est pas de la première jeunesse ni d'une grande beauté, mais il aime beaucoup les jeunes femmes et il aime beaucoup leur faire des cadeaux. Évidemment, elles sont sensibles. Peut-être
plus au cadeau.
Elle serait moins sensible à son charme si il ne leur faisait pas très généreusement des cadeaux. D'ailleurs, l'arme du crime, c'est un cadeau qu'il a fait à la jeune femme Olga, un poignard ancien qui va finalement, enfin, signer d'une certaine façon la propre je ne veux pas dire la culpabilité, encore qu'il y ait une phrase très étrange dans le film, qui est évidemment mal traduite dans le sous-titre, ils n'ont pas compris du tout. C'est le juge qui dit le coupable n'est pas celui qui a tué, mais celui ou celle qui a été tué. Donc c'est intéressant, puisque ça laisse supposer que Olga a un petit peu cherché ce qui lui est arrivé. Bon, et donc, pour en venir au procédé narratif, on a affaire chez Tchekhov, comme dans le film de Sirk, à une longue confession écrite. On entend la voix off du personnage, du juge, qui est joué, ça on n'en a pas encore parlé, joué par George Saunders. George Saunders, qui était un acteur très connu à Hollywood, lui-même personnage complexe, grand amateur de femmes, d'art, un peu esthète, mais aussi un personnage contradictoire, facilement blasé, comme Sirk les aimait beaucoup, qui est un peu la version hollywoodienne du Willy Bergel de Parramatta. Et Sirk a raconté d'ailleurs que des années après, mais on lui parlait de ce film en disant mais le personnage de Sanders c'est très curieux finalement, on n'imagine pas ce genre de personnage se suicider. Et le lendemain, il a appris le suicide de l'acteur, George Sanders, qui, paraît-il, s'est suicidé après avoir laissé une note écrite disant « I am bored ». Je m'ennuie. Donc c'était ce personnage, enfin cet acteur qui jouait très souvent des rôles d'anglais. Il était né à Saint-Pétersbourg, mais il était anglais, il était élevé en Angleterre, mais comme il avait vécu en Russie, il connaissait assez bien aussi la Russie, la langue russe, etc. Enfin bon, il campait des personnages. Parfois sympathique, parfois au contraire des personnages de méchants. Mais Sirk a trouvé en lui un interprète avec qui il avait vraiment des affinités qui correspondaient au rôle qu'il voulait donner à ce juge, donc chez Tchekhov s'appelle Sergueï, dont le nom est changé en Fedia dans le film. Donc ce juge se trouve, c'est un peu Édipe, sauf que Édipe ne sait pas qu'il est coupable, mais c'est dans le sens où il enquête sur un meurtre qu'il a commis lui-même. Et alors il culpabilise aussi parce qu'il se rend compte que il y a un suspect tout trouvé très vite, c'est le mari d'Olga.
Oui, parce qu'on a oublié de le dire, mais donc cette fameuse Olga a un père qui n'est pas très recommandable non plus. Hein.
Non.
Lui, ce qu'il veut, c'est se débarrasser de sa fille, qu'il considère comme étant un poids. Il a compris qu'elle plaisait aux hommes, donc il pense qu'il n'aura pas de mal à lui trouver un mari. Il est ivrogne, il passe sa journée à boire et allongé sur sa paillasse. Et il y a l'intendant du domaine du comte Volski qui est là.
Ça,
et donc l'intendant, évidemment, n'est pas d'une beauté folle.
Non, c'est le moins qu'on puisse dire.
C'est le moins qu'on puisse dire.
C'est un brave homme. D'ailleurs.
C'est un brave homme qui a 4 sous.
Et donc lui, il est éperdument amoureux de cette jolie femme. Elle, évidemment, on voit bien que...
Le couple, elle a aussi mal assorti.
Elle a fait contre mauvaise fortune mon cœur. Elle poursuit sa liaison avec Fedia, le juge. Mais surtout, ce qui rend Fedia, ce qui lui fait commettre ce meurtre, c'est évidemment que elle veut surtout devenir la maîtresse du comte, parce que elle a le sentiment que Fedia, c'est très bien, c'est un bel homme.
C'est déjà mieux que l'intendant.
C'est beaucoup mieux que l'intendant, qui est franchement assez moche, un barbu assez épouvantable. C'est Zsig Ruhmann, c'est un de ces acteurs allemands qui a beaucoup joué à Hollywood, notamment dans les films de Lubitsch à l'époque. Mais il est franchement caricatural, affublé d'une barbe et avec des yeux globuleux qui lui sortent de la tête. Mais il est très amoureux de cette belle jeune femme. Elle se moque complètement de lui. Il y a eu une scène de mariage où quand même on voyait le juge...
Qui est son témoin, qui est le témoin de la mariée.
Témoin de la mariée, mais enfin on avait l'impression que, comme souvent dans les scènes de mariage, dans les mélodrames, on se demande quels sont les rôles exacts et s'il n'y a pas un deuxième mariage derrière l'apparence du mariage. Mais donc, le Fedia, lui, il pense, il voudrait avoir Olga pour lui tout seul, peut-être partagé avec Ulbenin, le mari, mais bon, mais pas à partir du moment où elle vise le lit du comte.
Elle poursuit son ascension.
qui lui fait donc de beaux présents, etc. C'est ça, sans doute, enfin, c'est pas explicité d'ailleurs dans la confession, mais c'est ça qui a sans doute poussé. Une impulsion, mais le juge a tué cette jeune femme. Et alors, chez Tchekhov, donc, on se rend compte petit à petit, mais il n'y a pas de doute, d'ailleurs, il commet... Alors, chez Tchekhov, ça, c'est éliminé du film. Il se débrouille même... Il y a eu un témoin qui pourrait... dire la vérité et incriminer le juge, il se débrouille pour aller l'étouffer dans sa prison. Donc il commet vraiment un deuxième crime. Alors c'est supprimé, c'est très bien d'ailleurs que ça ait été supprimé, mais dans le film, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit à un moment, je commets là mon deuxième crime, pire que le premier, c'est quand, au moment du procès, quand on a arrêté Houlbénine, parce qu'on l'a trouvé déjà avec sa chemise couverte de sang, donc on se dit, ben, c'est lui, etc., c'est lui qui a trouvé le cadavre, donc c'est lui qui a tué. Enfin, bon, il a protesté, je parle du film, hein, il dit, n'allons pas si vite, etc., mais il se dit, son deuxième crime, c'est lors du procès, où il a quand même un reste de conscience, qui lui dit « Tu devrais te dénoncer. On va condamner un innocent qui, en plus, est un peu paumé. » Et c'est là qu'il se rend compte. Donc il le dit dans sa confession, mais on l'entend dans le film. « Je commets ici mon deuxième et pire crime que le premier. » Bon. Alors, chez Tchekhov, au bout d'un moment, il y a des commentaires de l'auteur par opposition au narrateur. C'est-à-dire que Tchekhov lui-même, à plusieurs moments, dit « Ce juge d'instruction est quand même un peu bizarre, il m'a pas l'air de quelqu'un de très fiable, etc. » Et alors il a expliqué qu'il avait écrit ce roman pour se moquer, d'une certaine façon, des romans policiers qui étaient très à la mode en Russie à l'époque, genre Gaborio, où un juge d'instruction génial... ou un enquêteur, policier génial, par exemple, démêlait les ressorts d'une affaire très compliquée, incompréhensible, et faisait triompher la vérité. Et il dit, j'ai écrit ça pour me moquer de tous ces romans. Donc il prend encore une fois l'enquêteur qui alors on lui dit, mais il faut interroger tel témoin. Il dit, oui, mais laissez-moi faire, mais on va le faire bien. Non, je m'en occupe, enfin, etc. Parce que l'enquêteur veut évidemment dissimuler toutes les preuves qui finiraient par l'accabler, lui, d'une façon ou d'une autre. Et alors, il y a eu la scène extraordinaire où il y a une jeune servante... qui est passée, elle aussi, par le lit du comte, une jeune Autrichienne, une jolie blonde aussi, peut-être moins jolie que la brune Linda Darnell, mais enfin, quand même, et qui s'aperçoit que... parce qu'elle a vu le meurtrier, mais elle n'a pas vu sa tête. Elle a vu notamment sa main.
Sa main. Qui était en train de se laver du sang.
Après avoir commis le meurtre, et elle se rend compte qu'elle est en train de raconter ça en regardant la main de Fédia, du juge, elle se rend compte que c'est lui. Alors là, le système de classe joue à fond, elle s'agenouille devant lui et lui dit « Mais je vous ai toujours aimé, je ne dirai rien, comptez sur moi ». Elle lui prend la main pour le supplier. Et il y a la transition avec le procès.
Voilà, que le procès dont on va écouter un extrait.
La main de la jeune femme prenant celle de Fédia, et ça va devenir... les mains du suspect, de l'accusé, Houlbénine.
Voilà, et on se rend compte qu'effectivement, ce n'est pas du tout la même main. Ce n'est pas le même type de main.
Absolument,
voilà.
Absolument.
Always. I won't say anything. You can trust me.
Anton Antonovich Houlbénine, raise your hands and show them to the witness. Do you recognize those hands?
I don't know. I can't remember.
Witness Clara Heller, were the hands you saw the hands of a peasant like those or not?
No, they were not a peasant's hands.
Well, they must have been a gentleman's hands. Is that what you want to say?
Yes. No, no. No, not the hands of a gentleman.
Then they could only have been a peasant's hands, right?
I...
Now answer. were they a gentleman's or a peasant's hands?
Answer the public prosecutor's question.
They were not a gentleman's hands.
So they were a peasant's hands. Thank you. That's all, Your Honor.
Witness dismissed. You may return to your place.
But I
had impressed upon Clara not to incriminate Urbanin, but her slow peasant's mind wavered, and what she said confirmed Urbanin's guilt rather than cleared him. There was only one thing for me to do. With the only honest impulse I have ever had in my life, I rose to address the court.
Sit down, please.
Order in the courtroom.
100 times during the proceedings that followed, I could have interposed my confession, but to my confused mind, the chance I'd let slip seemed lost forever. In reality, it was the will to live, inherent in every human being, that caused me to commit my second and more dastardly crime.
Anton Antonovich Urbanin, witnesses have testified that on several occasions, out of jealousy, you threatened to kill your wife.
That's not true.
But you are an extremely jealous man, is that true?
Yes, I was.
So the motive for the murder was there. And having considered all the evidence carefully, I'm sure that the jury will find that this man is unmistakably guilty of one of the most bestial crimes it has ever been my misfortune to investigate.
I couldn't have killed Olinka. I loved her. Don't you understand? I loved her!
I'll hear that I loved her until the end of my life. And I shall never forget the moment when the jurymen, having reached their verdict, returned to the courtroom and their foreman, some merchant or shopkeeper with a bony, bird-like face, rattled off their decision. And I'll never be able to erase the memory of Urbanin's blank and hopeless face as he listened to the presiding judge sentencing him
to lifelong forced labor in the salt mines of Siberia.
Voilà. Dans cet extrait, vous avez parlé de la confession du juge Fédor Pietrov, qui reconnaît qu'il est en train de commettre un deuxième crime. Et donc cette ambivalence entre ce qu'il a réellement fait, ce qu'il est en train de confesser, au double sens que vous avez explicité, et en même temps cette voix off et cette voix, ces voix à l'intérieur du procès font créer une espèce de confusion mentale et de confusion aussi pour le spectateur. On ne sait plus où est le vrai du faux.
Oui, je suppose d'ailleurs chez Tchekhov, c'est très bien fait. On a le sentiment que Sergueï, donc qui est comme il s'appelle chez Tchekhov, mais qu'il est presque schizophrène. Mmh. C'est-à-dire, il reconnaît avoir accompli, si j'ose dire, ses crimes. J'ai dit une bêtise d'ailleurs à propos de quand j'ai parlé de Zygrouman. Zygrouman, c'est celui qui, c'est un autre personnage, s'appelle Kuzma. Je veux dire, dans le film, c'est pas Urbanin. Urbanin est joué, pardon, parce que, mais je peux corriger cette confusion. Urbanin est joué par Hugo Haas, qui était un autre acteur allemand à Hollywood. Mais Zygrouman, c'est le rôle de Kuzma qui, chez Tchekhov, est la deuxième victime. Du juge qui l'étouffe dans sa prison et se débrouille pour faire passer Urbanin comme
le vrai auteur.
L'auteur du crime. Ce qui fait que Urbanin est condamné pour deux meurtres et non un seul. Mais effectivement, je trouve que c'est très intéressant tous ces procédés d'enchâssement d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire le cadre historique avec ce qui s'est passé quelques années avant la guerre et la révolution et ce qui se passe et alors comment le manuscrit parvient à l'éditrice, ça aussi c'est... Ça a été modifié par Sirk de façon assez habile, je trouve. Chez Tchekhov, c'est le juge lui-même qui a envoyé son manuscrit à un éditeur, à l'éditeur d'un magazine. Donc c'est aussi une façon de se confesser, puisque c'est une confession. Bon, le mot est repris là, dans ce qu'on vient d'entendre. Le personnage de Fedia Saunders a utilisé le mot confession. Mais alors, dans le film, c'est assez différent, puisque c'est le comte qui a besoin d'argent, qui a trouvé ce manuscrit qu'il n'a pas lu, apparemment. C'est pas quelqu'un qui lit le conte, c'est pas un intellectuel. Et il l'apporte donc à la rédactrice en chef d'un magazine qui est Nadina, alors qui est un personnage très important parce que c'est une jeune femme de la bonne bourgeoisie et elle est amoureuse du juge, mais il n'arrive pas à se décider à la demander en mariage. Sans doute parce que il est conscient aussi de toutes ses passions, pulsions, etc., du fait que c'est un homme à femme, et donc il ne veut pas se lier à Nadina. Et alors qu'il y a la scène du banquet, par exemple, après le mariage de Olga et Oubenin, où on sent qu'il y a une forte pression qui est exercée sur lui pour qu'il se déclare. Donc Nadina, et ça c'est pas du tout dans Tchekhov, puisque ça n'a rien à voir avec après la Révolution, Nadina est devenue la rédactrice en chef, c'est elle qui lit le manuscrit.
Et puis, c'est elle qui permet à la voix off...
Voilà, mais qui va déclencher la voix off de l'auteur du manuscrit. Mais donc,
et le flashback.
Et le flashback, le déclenchement du long flashback. Mais à la fin, Fedia, apprenant que son manuscrit a été confié à Nadina, se précipite chez elle... pour le récupérer. Et alors, elle lui dit, en fait, je ne l'ai pas envoyé. J'ai préparé une enveloppe pour le procureur général, donc pour transmettre la confession, mais j'ai décidé de te laisser une chance, puisqu'il y a toujours cette idée, Fedia a une conscience. Sauf qu'il n'écoute pas vraiment la voix de sa conscience. On l'a vu lors du procès, où il dit, voilà, le deuxième et pire crime que j'ai commis, c'est de ne pas me... si je me suis levé, mais on m'a dit de m'asseoir, donc je me suis arrêté là, alors que j'aurais pu avouer et innocenter Urbénine. Et donc, elle lui dit, je t'ai laissé une chance de te racheter, relativement. Alors lui dit, mais non, mais tout va bien, nous sommes encore jeunes, nous avons des années devant nous, etc. Elle lui répond, oui, entre nous, il y a quand même un innocent qui est en Sibérie, puisqu'elle a été condamnée à perpétuité. Et alors elle lui dit, je te laisse une chance, tu postes la lettre ou non. Et alors là, il y a une scène, je trouve très, très belle, la scène, la conclusion, complètement inventée, donc, par rapport au roman, où, comme toujours, toute sa vie, il hésite. Et il prend l'enveloppe, il va vers une boîte aux lettres, il n'arrive pas vraiment à passer à l'acte. Et puis, il y a quelqu'un derrière lui qui dit « Mais j'attends, je voudrais moi aussi mettre ma lettre dans la boîte. Alors, c'est pour aujourd'hui ou pour demain ?» Et alors, il met, mais sous la pression de l'autre, il met la lettre dans la boîte et immédiatement, il s'en repent et se dit « Mais non, il faut que je récupère ce manuscrit. Je n'ai pas envie, moi, de me retrouver en Sibérie, enfin, etc. » Donc, il court après le postier qui vient de vider la boîte aux lettres. Et le postier lui dit « Ah non, je n'ai pas le droit, maintenant. » Alors, il provoque un scandale. Il entre dans un café et finalement, il va se faire abattre par la police parce que il a créé du scandale et voilà.
Justice sera faite.
justice, d'une certaine façon, aurait été faite en espérant que Nadina tienne le procureur général au courant et fasse libérer le pauvre Urbénin. On ne sait pas dans quel état il est dans les mines de sel de Sibérie.
Mais là, théoriquement, la lettre va arriver à son destinataire, le manuscrit.
Oui, bah, de toute façon, oui.
Oui, on est avec un être faible, veule, effectivement. Alors même que il portait beau avant la Révolution, ils sont ici tous les deux avec le comte Volsky. Ils partagent une espèce de chambre, enfin de pièce. Ils sont miséreux, hein, l'un et l'autre. Mais il est prêt à tout.
Quasiment clochardisé.
Oui, clochardisé. Oui.
Mais c'est pour ça que le comte a pris l'initiative d'aller,
voilà.
Sans savoir ce que c'est que ce manuscrit, mais il se dit ça peut valoir quelque chose.
Voilà. Ça permettra d'acheter quelques litres de vodka.
Une petite bouteille de vodka, oui.
C'est ça. Oui. Là on est également, oui, avec un renversement des situations, alors à la fois dans le contexte historique, bien sûr, puisqu'on est après la révolution bolchevique, mais on est aussi avec des classes sociales qui étaient très marquées, bien sûr, avant, mais qui, là, dans une certaine mesure, perdurent, même si elles ne correspondent plus à rien. Le comte,
oui,
un peu...
Tout le monde s'appelle camarade.
Tout le monde s'appelle camarade.
Le comte a un peu de mal parce qu'il n'a pas l'habitude, mais,
c'est ça, voilà,
mais ça ne le dérange pas de dire « Tovarich ».
Mais dans les trois films dont nous avons entendu des extraits, on a toujours un accusé à tort. Dans les deux premiers, il s'agissait d'une femme. Là, cette fois-ci, c'est un homme qui est accusé à tort. Mais dans tous les cas, voilà, il y a un certain nombre de témoins, enfin un témoin en particulier, à qui qui a sur ses épaules des éléments liés à la vérité qu'il pourrait révéler devant le tribunal et qui permettrait d'innocenter cette accusée victime.
Oui, mais de ce point de vue-là, oui, ça s'oppose directement à ce qui se passe dans le, en tout cas dans Schlussakkord, puisque dans Schlussakkord. Fraise,
la gouvernante
se rend compte que c'est elle qui détient qui est détentrice, oui, d'une vérité sur l'innocence de Anna, qu'elle a refoulée délibérément. Elle s'est parjurée, encore une fois, et elle crève l'abcès en l'admettant. Mais ce que je voudrais revenir à cette histoire des mains, parce que oui, tout le dialogue là et le débat montre à la fois le trouble de la jeune femme qui doit témoigner. Ça rappelle beaucoup, dans un tout autre contexte, Gloria Vane. Non, c'est pas moi. Ah, mais c'est pas Albert Finsbury. Donc oui, c'est moi.
Oui, dans Parramatta, Bagne de Fab.
Voilà. Et alors, elle est complètement perdue, puisque mais d'après le président du tribunal, il y a deux sortes de mains. Il y a les mains de paysans et les mains d'aristocrates. Et au premier coup d'œil, on doit savoir à qui on a affaire. Alors que là, elle est tellement troublée. Parce qu'elle ne veut pas accabler Urbénin, qu'elle sait innocent, mais elle ne veut pas, non, elle a juré au juge qu'elle ne le trahirait pas. Donc que répondre ? Elle est prise dans un dilemme insoluble. Bon, elle finit par dire des mains de paysans, mais elle a dit le contraire juste avant, donc...
Oui, sa déposition est contradictoire. Si on revient au travail du juge quand il était encore en fonction, dans les deux interrogatoires qu'il conduit, donc auprès de cette jeune servante et ensuite auprès de la blessée mortelle qui va décéder quelques instants après, je trouve qu'il est qu'il prend la mesure de ses fonctions et il est en train d'instruire à charge et à décharge. Les questions qu'il pose, alors même qu'il sait qu'il est lui l'auteur des faits, sont des questions qui sont ouvertes et des questions qui permettraient dans l'absolu à la personne interrogée de répondre.
C'est un bon professionnel. De ce point de vue-là, oui. Mais alors, il y a la scène tout de même de la mort, justement, enfin des derniers instants de vie d'Olga. C'est quand même J'ai pardonné à mon assassin parce que je l'aime.
C'est mais ça. Elle en a aimé plusieurs, enfin.
Oui, mais.
Donc quel est le bon?
Elle a l'air de dire que d'une certaine façon, ils étaient faits pour s'entendre, dans le sens où elle visait le comte, mais elle aimait vraiment Fédia, le juge. Et donc, elle lui pardonne, parce qu'il a agi, finalement, par jalousie, donc d'une certaine façon, par amour. Enfin, il me semble que ça peut s'expliciter de cette façon. Et si on était un peu pervers, dialecticien, oui, le juge peut se dire, elle m'a pardonné.
Bien sûr, elle m'a disculpé.
Ça me donne finalement toute latitude pour charger un innocent qui, après tout, n'est qu'un moujik sans importance. Enfin, y a, en même temps, là aussi, il y a un côté, pas schizophrène, mais il y a une espèce de fonctionnement très intermittent de la conscience professionnelle et puis de, comme il dit, de sauver sa peau, qui l'emporte sur toute autre considération.
Mais juste avant la confession de d'Olga, la question qu'il pose dans mes souvenirs, c'est une question qui est ouverte et il y a un trouble qui s'empare de lui parce qu'elle peut très bien le désigner, lui, comme l'auteur des faits. Bon, finalement, elle ne le fera pas, mais on sent qu'il est suspendu à ses lèvres en se disant, là, elle va révéler quelque chose. Les autres sont en train de me souffler en me disant, mais non, mais l'assassin, il est connu, regarde-le, il a les taches de sang dessus, donc c'est sûr, c'est lui tout l'accable. Et lui, non, je pose mes questions, je continue à poser des questions, elle va nous le dire, etc. Et donc, à un moment donné, elle peut très bien dire quel est son vrai assassin, son véritable assassin.
C'est vrai. Mais
il est sauvé par une femme.
Oui, tout à fait. Mais
deux femmes, même.
La femme qui l'a tuée. Mais...
Donc la sœur voulait mettre en scène ce film avant.
Il avait eu le projet de réaliser l'adaptation. De Tchekhov en Allemagne déjà, avec Willy Birgel d'ailleurs.
D'accord.
C'est un projet très ancien, mais qui ne s'était pas réalisé à l'époque. Et donc, parce qu'à Hollywood, on peut dire deux mots peut-être de ce qu'il fait quand il a eu du mal à Hollywood, entre autres parce qu'il est arrivé tard et que la colonie très importante allemande anti-nazie l'a pas accueilli à bras ouverts. Hein. Tout ça, on s'est pas appesanti là-dessus, mais il est évident que quelqu'un qui avait ses états de service à la UEFA, plusieurs films à grand succès avec les acteurs, les actrices qu'on a évoqués, alors il s'est un peu, on est vraiment dans le vocabulaire un peu religieux, mais il s'est racheté aussi un peu entre guillemets avec un premier film qui trouve un très beau film alors qui est Hitler's Hangman, qui est un film tourné avec de petits moyens mais qui traite pas exactement à chaud, mais peu de temps après l'événement, de l'assassinat de Heydrich, le Reichsprotecteur de la Bohème, la Tchéquie, assassiné par des partisans tchèques. Et les représailles ont été terribles, parce que Heydrich était un des très proches d'Hitler. C'est un des artisans, si j'ose dire, de la solution finale. Les représailles des Allemands ont été de raser le village près duquel avait eu lieu l'attentat, finalement réussi, pas immédiatement, mais il est mort quelques jours après, contre Heydrich, en voiture décapotable, etc. Tuer tous les habitants du village, hommes, femmes et enfants. Alors c'est C'est un peu comme ce qui se passe en ce moment en Ukraine, mais même à l'intérieur d'une guerre qui durait déjà depuis des années, mais les opinions publiques ont été extrêmement frappées par cet événement. Et il y a eu un poème très célèbre que le film de Sirk cite, et puis donc son film aussi, un film anglais sur ce sujet. Là, on voit bien, disons, les nazis, alors avec une justice, entre guillemets, expéditive, non contradictoire, évidemment, où, d'ailleurs, on voit Heydrich encore en vie, qui visite le village, qui abat un prêtre qui s'est opposé à lui parce qu'il y avait, une procession traditionnelle. Et ce qui est curieux d'ailleurs, c'est que là, c'est plutôt des signes de catholicisme, alors que Sirk, je pense, était d'origine luthérienne, mais enfin, peu importe. Et c'est une bohème très catholique, donc il y a une fête traditionnelle. La voiture de Heydrich fait irruption là-dedans. Il maltraite le prêtre et les reliques, et le prêtre se rebiffe, il le tue. Et c'est ça aussi qui va susciter l'union du village dans la résistance aux nazis. Et puis il y a des scènes, par exemple, au château de Prague, où Heydrich fait venir un certain nombre de jeunes femmes qui ont été des étudiantes de l'université. Il interrompt un cours de philo où le prof parle de Kant et de la paix perpétuelle. Heydrich se moque ouvertement des intellectuels, des philosophes, des rêveurs.
Tout ce qu'appréciait Sirk.
Oui, bien sûr. Et alors, il fait venir un certain nombre de jeunes femmes, des étudiantes, et il les attribue. Il y en a une qui garde pour lui, et il les attribue aux autres nazis présents. Il les envoie pour égayer les soirées des SS, etc. Et il y en a une qui se jette par la fenêtre pour ne pas subir ce sort. Donc là, on a en même temps une peinture manichéenne, mais montrant les nazis comme n'obéissant à aucune loi autre que celle de la force, de l'intimidation, de la terreur, de l'exécution sommaire, de déni de toute justice, quelle qu'elle soit.
Vous avez parlé de cet accueil qui lui a été réservé quand il est arrivé à Hollywood. Il y a même eu une période où son épouse, sa seconde épouse, l'écrit, visiblement. Il a renoncé à tourner des films et ils se sont lancés dans une carrière de fermier, tous deux.
Oui, oui. Il y a eu un épisode où ils élevaient des poules et ils faisaient pousser de la luzerne, et ils ont été bien contents d'avoir de l'aide de paysans des environs qui élevaient. Il en parle en disant que c'est aussi ce qu'il aimait aux États-Unis, enfin le mélange, parce que à Hollywood, évidemment, ils ne se faisaient pas non plus trop d'illusions sur les... Enfin, il a eu de vraies amitiés avec certains acteurs, certains producteurs, scénaristes. Enfin, c'était toujours aussi des rapports de force, des considérations, évidemment, de... succès commercial et le principe de réalité, comme après tout c'est comme ça dans toutes les industries capitalistes. Mais il parle aussi de son amour pour une certaine simplicité et camaraderie possible avec des des cultivateurs qui les ont aidés parce qu'en leur disant mais vous avez pas, vous êtes manifestement pas très au courant de la façon dont il faut faire pousser la luzerne et la récolter ensuite.
Et visiblement, parmi la communauté des anciens cinéastes européens réfugiés aux États-Unis, ils n'étaient pas tous tendres avec leurs corréligionnaires qui arrivaient petit à petit, et visiblement, le plus généreux d'entre eux étant Billy Wilder.
Oui.
D'autres, beaucoup moins.
Bah, c'est-à-dire, oui, non, mais en même temps, je veux dire, c'est encore une fois, c'est tout de même, c'est compréhensible que, bon, je sais que...
Non, je ne parlais pas de Sirk simplement. Ouais. Visiblement, au fur et à mesure des arrivées, il y en a certains qui pouvaient avoir des beaux discours, mais qui en fait n'accueillaient pas leurs confrères européens à bras ouverts, alors que visiblement, Billy Wilder était celui qui, j'allais dire, avait table ouverte pour tous ses anciens compagnons.
Oui, oui.
Non, vous n'avez pas d'informations.
Écoutez, non, je pense simplement aux mots de Billy Wilder.
Oui, bah oui. les optimistes et les pessimistes,
voilà,
vous pouvez le dire.
Les pessimistes, oui. les juifs optimistes sont morts dans les camps d'extermination. Et les juifs pessimistes, ils habitent sur la 5e avenue à New York.
Ah, moi je croyais que c'était à Hollywood avec une piscine. Les deux sont possibles.
Je pense que les deux peuvent se dire, enfin c'est bien dans l'esprit de Billy Wilder, ouais. Qui ne se faisait pas d'illusions non plus sur la nature humaine, je pense.
Ben c'est sur ces paroles que nous clôturons ce 3e épisode. Merci beaucoup Jean-Loup Bourget de nous instruire autour du cinéma de Douglas Sirk. Et merci aux deux co-réalisateurs, Léobardo Arango, Marin Hirsinger. Au revoir à toutes et à tous.